Chers passagers, la compagnie Air Zénitude vous souhaite la bienvenue à bord de l'émission Bien-être de Dynamique Radio. Animée par Laetitia Trindade, praticienne en hypnose, sophrologue et sexologue.
Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver dans l'émission de Air Zénitude, un moment d'échange et de partage dans un nuage de bien-être ce mardi matin sur Dynamique Radio. Avec comme invité Christophe Médici, docteur en psychosociologie, formateur en communication, coach life, conférencier et fondateur de la méthode Haute Qualité Relationnelle et auteur de 20 ouvrages, et aussi chroniqueur radio et télé. Bonjour Christophe.
Bonjour Laetitia et bonjour à tous les auditeurs de votre émission.
Comment vas-tu aujourd'hui?
Ah, écoutez, ça va très très bien. En plus, je suis ravi d'être en votre compagnie pour une première, je crois.
Oui. Tout à fait,
c'est un baptême.
Le premier vol.
C'est le premier vol, on décolle, on vient de décoller, l'avion est magnifique, la pilote aussi, donc tout va bien.
Oui.
Le ciel est bleu.
Tout à fait, il n'y aura pas de turbulence.
Je ne crois pas.
Alors aujourd'hui, nous allons explorer le thème « Comment gérer un partenaire toxique et retrouver sa confiance ?»
Première escale. Le billet sexy.
Le sexe et la personne toxique. Assez contradictoire quand on pense au sexe, on l'associe au plaisir et pourtant cela dépendra du partenaire sexuel. Mais aussi la vie de couple quand on est avec une personne toxique peut être très difficile. Alors, comment vit-on un couple quand le partenaire est toxique? Est-ce qu'il y a des besoins? Est-ce qu'il met plus ses besoins en avant que vraiment son désir, sa tendresse?
C'est une bonne question. Alors, vous savez, Laetitia, que j'avais écrit un livre là-dessus il y a 4-5 ans dans la collection de Brigitte Lahaye, Psycholove. Et Dieu sait si, comme je suis aussi chroniqueur sur une radio qui s'appelle Sud Radio dans l'émission de Brigitte, et que j'étais avant sur RMC avec elle aussi, dans Lahaye, l'amour et vous, le titre du livre est le titre de votre premier thème.
Mais
de
oui,
première émission,
fait.
Savoir gérer un conjoint toxique. Et ma méthode haute qualité relationnelle en transversalité aide, avec des outils relationnels de couple que j'appelle les ORC, à gérer un conjoint toxique. Alors qu'est-ce que c'est un conjoint toxique? Volins, nolins, c'est pas parce qu'on tombe amoureux ou amoureuse de quelqu'un que cette personne avec laquelle on vit une relation, et pour le coup là une relation sentimentale et amoureuse, n'est pas une relation toxique. Nous, dans la méthode haute qualité relationnelle, on fait la distinction, et je pense que vos auditeurs vont le comprendre, entre ce qui est du domaine du sentiment,
oui,
n'est-ce pas, et ce qui est du domaine de la relation. Autrement dit, on peut aimer quelqu'un très très fort et vivre avec cette même personne une relation toxique, Laetitia. Regardez les femmes qui tombent sous le coup d'un cogneur. Malheureusement,
oui,
les femmes
exactement.
Dans tous les trous de joie jouent en France encore, et tous ces mouvements ces dernières années qui se battent pour ça. Je veux dire,
oui,
les femmes cognées, les femmes battues, c'est pas une ineptie, c'est pas dans le ciel, c'est la réalité. Après, on va voir au cours de l'émission ce qu'on peut faire et comment on peut les aider, les gens qui sont dans une relation toxique.
Oui, parce qu'à chaque fois, on dit dès qu'une femme battue, mais vas-y, pars, pourquoi elle est pas partie? Mais en fait, c'est pas si facile que ça pour elle de partir de son partenaire toxique. Après, au niveau aussi des besoins aussi sexuels sur les relations toxiques, ce n'est pas vraiment de l'amour en fait pour le conjoint, c'est vraiment pas en fait de la tendresse ni assouvir. En fait, un désir, c'est vraiment être dans un besoin en fait, parce qu'il n'est pas connecté aux émotions en fait, ces personnes toxiques. Il vide votre énergie à la fin de l'acte, ils vous prennent aussi pour un objet.
Tout à fait. D'ailleurs, on sait très bien que souvent la femme qui est dans une relation toxique... Alors, il y a plusieurs cas de figure, Laetitia. Il y a des êtres humains qui sont dans une relation toxique qui n'en sont pas conscients. Il faut le voir.
Oui, c'est vrai.
Parce qu'on peut, dès le début, avoir un ressenti. Peut-être commençons par définir ce que c'est une relation toxique en amour. C'est une personne avec laquelle on vit cette relation, dans laquelle on est peu ou prou en emprise. C'est-à-dire qu'on est sous l'emprise de cette personne. Et quand on est sous l'emprise de quelqu'un, on le ressent. Alors comment les gens qui écoutent votre émission peuvent se dire « Est-ce que moi je suis dans une relation toxique en ce moment si je suis en couple ?» Tu te sens inconfortable dans cette relation.
Oui, un peu étouffé.
Et complètement étouffé. Ta communication n'est pas fluide. Tu marches sur des œufs. Tu fais attention à ce que tu vas dire. Tu ne sais pas si l'autre va mal le prendre. Et tu es dans des émotions négatives. Type la peur, qui est la number one.
Eh oui.
Hein, type une espèce de tristesse qui s'installe petit à petit. Mais pourquoi je dis que les gens parfois n'en sont pas conscients, Laetitia? Parce qu'ils le dénient. Et comme dit mon ami Boris Cyrulnik, le déni fait des dégâts.
Exactement.
On peut être dans une relation toxique, mais comme il y a beaucoup de bénéfices secondaires, comme il y a beaucoup de choses qui font que bah, finalement c'est pas si mal sur d'autres plans, eh bien on reste dans une relation toxique. Ça sera toujours avec on paiera une addition hein, à la fin, on paiera une addition et sévère, mais on reste dans une relation toxique parfois.
Exactement, et en plus de ça, ils aiment aussi rabaisser en fait la personne, et au niveau sexuel aussi, il vous dénigrera, critiquera en fait votre corps. Des fois, il vous fera des flatteries, en fait, parce qu'ils ont un petit pouvoir aussi de vous lever très, très haut et puis après de vous descendre un peu très, très bas pour semer, en fait, une confusion mentale, en fait. Et même sexuellement, ils le font. Et c'est pour ça que vous sentez que la relation, elle n'est pas très normale. Vous ne savez pas à un moment donné si c'est vraiment rose ou bleu. C'est vraiment une confusion qui mène, même sexuellement. Et en fait, ils essayent avec le sexe d'avoir du contrôle sur l'autre parce qu'eux, ils ont... un besoin en fait de se sentir aimé, ils sont assoiffés en fait de cet amour, parce qu'il y a aussi quand même une blessure d'abandon en fait qui s'est mise complètement.
De toute façon, une personne toxique est quelqu'un qui a des blessures d'enfance très profondes. Vous êtes psychothérapeute à la base, vous êtes hypnothérapeute en plus d'être animatrice radio, vous le savez comme moi, et moi je suis life coach et formateur. On connaît tous, et on le rappelle à vos auditeurs, ce livre de Lise Bourbeau, Les 5 blessures qui nous empêchent d'être soi-même.
Hein. Oui, ça, c'est une bible.
On les rappelle, les blessures, et puis les masques qu'on met très tôt pour éviter de ressentir cette blessure. Donc, évidemment, il y a le rejet, il y a l'abandon. Il y a l'injustice, mais c'est la cinquième. Il y a
Trahison.
La trahison, qui est la troisième, et on en oublie une.
L'humiliation.
L'humiliation, voilà. Et les masques sont intéressants parce que, puisqu'on parle d'être humilié, on peut être humilié physiquement, vous en parlez là, Laetitia, mais on peut être humilié aussi par des messages qu'on reçoit en termes de communication à longueur de journée. J'appelle ça dans la méthode haute qualité relationnelle des toxicomes, moi. C'est des messages toxiques. Alors, il y a des messages de dévalorisation, t'es nul, tu vaux rien, t'as
un peu
dégueulasse, tu baises mal.
Alors, tu baises mal. Alors, ça aussi, ça ressort.
T'es pas belle comme j'aimerais. Ouais. Enfin, c'est des toxicomes de dévalorisation.
J'ai eu une personne qui lui a dit aussi au cabinet, franchement, t'es en mode diesel.
Oui.
C'est très dévalorisant et en fait ça, la confiance en soi elle est complètement rabaissée.
Par exemple, la femme castratrice, bon, elle va non seulement rabaisser l'homme, parce que là on peut mettre à égalité les deux genres hein. Il y a la même proportion de femmes toxiques que d'hommes toxiques, comme ça c'est clair hein. Chez les hommes il y aura des pathologies plus vers la perversion narcissique, mais il y a des femmes perverses narcissiques
aussi.
Chez les femmes il y aura des hystériques ou des borderline, et je peux vous dire que une histoire d'amour avec des borderline, c'est sacrément toxique aussi hein. Je dis à vos auditeurs, vaut mieux avoir une mère borderline, même si c'est pas simple tous les jours hein,
qu'une femme
borderline, parce qu'une femme borderline à 9h elle est dans la douceur, à 9h15 elle veut t'éclater la tête, à 11h elle te donnerait la terre entière, à midi elle veut faire l'amour 15 fois et à 14h elle peut poursuivre avec un couteau dans la maison pour te tuer. C'est ça, la femme borderline. Je la chronique, mais vous savez que je chronique depuis tellement longtemps avec Brigitte hein, la haie, que nous des gens on en a eu des millions à coacher à la radio, donc je peux vous dire qu'on a tout vu et tout entendu, Laetitia, voilà.
Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Oui. Donc pour clore en fait la première escale, donc il faut arrêter en fait de donner de l'énergie en fait à ces vampires d'énergie, c'est comme ça que je les appelle, parce qu'ils sont assoiffés en fait, assoiffés d'amour, de se ressentir en fait exister, d'aimer surtout, mais que personnel hein, c'est assez égoïste. Et quand vous commencez alors une nouvelle rencontre, même sur le plan sexuel, prenez votre temps de faire connaissance, c'est mieux de prendre le temps.
Oui.
Pas vraiment donner son corps directement.
Non, faut prendre son temps. Est dans une époque du fast, justement. Je sors d'une autre émission sur un autre plateau où on parlait de ça, justement. On est dans la dictature de l'urgence. Fast thinker, fast lover. Alors, avec les applis et les sites, c'est du délire. Je veux dire, aujourd'hui, c'est pas est-ce que je couche le premier soir, c'est est-ce que je couche la première heure ou la deuxième, quoi. Je veux dire, c'est presque ça avec Tinder.
Oui. Là, c'est rapide.
Ou Apple, ou... Mais c'est l'accélération de tout. Et vous avez tout à fait raison d'insister sur le fait qu'on a le temps.
On a le temps.
Laisse du temps au temps. C'est un proverbe espagnol, dal tiempo al tiempo, qu'adorait François Mitterrand. Et faites la cour à une femme, pour messieurs, séduisez-la.
La séduction.
Et du romantisme. Moi, si j'étais un homme, je serais capitaine. Moi, je serais romantique. Vous vous rappelez cette chanson
hein. Exact.
Je serais romantique, bien sûr. Moi, je suis un grand romantique. Donc,
c'est important de vraiment prendre son temps, surtout en cette période aussi de virus. C'est très facile. Tinder, je vois bien au cabinet, beaucoup de fans viennent me voir parce que elles voient quelqu'un, hop, directement, elles font à manger elles lui font à manger et le montent directement dans l'appartement. Je trouve que c'est moyen, quoi. Avant, on prenait un verre au resto, dans un bar. Maintenant, c'est directement dans l'intimité, en fait. On rentre directement dans l'intimité de la personne.
Et imaginez si c'est une personne toxique.
Ah bah
et
là,
imaginez qui elles font rentrer chez elles. Et imaginez aussi ce que j'appelle moi dans un de mes livres l'effet badaboum, c'est-à-dire qu'on échange via le virtuel, mais le virtuel a des sens qui manquent. Il n'y a pas le toucher, il n'y a pas
le regard,
le goût. Et le regard est là, parce qu'on s'envoie des photos, on peut aller sur WhatsApp, on les met, mais il n'y a pas le toucher. Et il n'y a pas l'odorat. Et on sait très bien que ces sens-là, je vais vous dire quelque chose à vos auditeurs qui est très important. C'est pour ça qu'il y a un problème de sens dans les rencontres. Et j'en ai fait des millions. Donc,
il y a les odeurs de phéromones.
Quand on manque, exactement. Quand il manque des sens, il manque du sens.
Exactement.
Ce qui veut dire que cette relation-là, à un moment donné, cette rencontre, elle manque de sens à un moment donné. Surtout, comme vous le dites, si on va. On fait rentrer tout de suite quelqu'un dans son intimité très très forte et qu'au bout d'un moment, parfois au bout d'une heure, au bout de deux heures, on se rend compte, on se dit mais qu'est-ce que je fais avec cette personne ?
Et puis c'est quand même assez dangereux quand même.
Mais c'est dangereux. C'est parce que dans mon livre Savoir gérer un conjoint toxique, il y a ce que j'appelle l'échelle de Hyde. Alors vous allez comprendre pourquoi je l'appelle l'échelle de Hyde, parce que pour moi les personnes toxiques ont quelque chose à voir avec Dr. Jekyll et Mr. Hyde de Stevenson. Je conseille à tous vos auditeurs de lire cette nouvelle de Stevenson. Dr. Jekyll et Mr. Hyde, c'est la définition même dans la nouvelle de ce que c'est un pervers narcissique. C'est que toi, tes amis, quand tu l'amènes en société, elles voient Dr. Jekyll, et toi à la maison dans la voiture, t'as Mr. Hyde, toi. Et vous auriez pu passer cette chanson de Philippe Châtel, Je ne savais pas, pauvre de moi, qu'il y a du Mr. Hyde en toi. Vous la connaissez, cette chanson hein. Et Hyde en toi, Hyde pour moi. Et Mr. Hyde, lui, il veut ta mort. Mais tes copines, elles ne te comprennent pas.
Non, parce que lui, il est gentil.
Parce qu'elles voient Dr. Jekyll. Et Dr. Jekyll, il a de la faconde, il est cultivé, il est charismatique, il est drôle, il est intelligent. Elle dit, mais attends, mais il est super, ton mec, Jean-Marc. Qu'est-ce que tu... Oui, mais toi, t'as Mr. Hyde à la maison. Et
c'est
Mr.
terrible.
Hyde, c'est une horreur.
Bah sur ces belles paroles, on va faire un petit cours musical avec Angèle. Donc on y va, c'est parti.
Ma journée est passée à une de ces vitesses. Pas mis le nez dehors et pas lavé. À ça je déteste. Batterie faible, j'ai pas de quoi recharger. Et ça n'arrive que moi. Je voulais faire des stories qui t'étaient dédiées. Je sais pas te dire pourquoi. Regarde comment je souris. Regarde encore. Je veux savoir ce que t'en dis. Quand je souris trop fort, c'est faux peut-être, mais au plus je ris. Au plus je te donne tort de pas vouloir m'aimer. C'est oui ou bien c'est non. Hier tu me voulais. C'est oui ou bien c'est non. J'étais celle de tes rêves, celle qui comblait tes nuits et la mariée. Faut dire que ce fut bref, ta nuit n'a duré qu'une seule soirée. Genre romantisme express, t'as pris le temps de venir mais pas de rester. Tu m'embrasses puis tu me laisses. Regarde comment je souris, regarde encore. Je veux savoir ce que t'en dis. Quand je souris trop fort, c'est faux peut-être, mais au plus je ris.
Découverte du monde du bien-être.
Dans Airzénitude aujourd'hui, nous explorons les relations avec les personnes toxiques et de retrouver sa confiance avec toujours notre invité Christophe Médici, autour de nombreux ouvrages, aussi conférencier, formateur et docteur en psychosociologie. Christophe, vous avez sorti plusieurs livres à ce sujet. Est-ce que vous avez vu des situations liées à des proches qui vous ont inspiré, ou alors une expérience en psychosociologie au cabinet où vous avez vu vraiment de la souffrance autour de vous qui vous a permis d'écrire ces ouvrages ?
Si je me suis passionné pour les personnes toxiques, d'ailleurs pas qu'en amour mais aussi au travail, hein, ma méthode est une méthode de prévention des risques psychosociaux pour améliorer la qualité de vie entre les gens. Je crois que c'est jamais anodin, vous avez raison de me poser la question sur les implications, parce que en fait c'est aussi parce que j'ai vécu beaucoup de toxicité quand j'étais enfant et ado dans la famille d'origine. C'est jamais anodin, Laetitia, quand on choisit des métiers, ils ont à voir avec des choses qu'on a pu vivre.
Ça c'est sûr.
Et mon enfant intérieur blessé, que j'ai guéri depuis par d'un long travaux à la fois thérapeutique, spirituel et autre, a fait que je peux aider les gens qui sont aux prises avec des relations toxiques. Je pense qu'on peine à savoir le nombre de gens qui ont vécu des relations toxiques, parce que disons-le très clairement et très carrément à vos auditeurs, si adultes on plonge et on nourrit et on reste, d'autant plus si on reste longtemps dans une relation toxique, ce choix n'a pas été fait impunément. Il est lié à des mémoires émotionnelles, sensorielles, au fait qu'on a eu un ou deux parents toxiques ou d'autres parents qui font que dans les 6 premières années de la vie, c'est pas à vous qui êtes thérapeute que je vais l'apprendre, beaucoup de choses ont généré des programmations dans le cerveau qui font qu'après, eh ben, en amour, entre guillemets, on fait le mauvais casting. Et parfois, voilà. Mais sinon, non. Une personne qui n'a pas vécu des traumas avec des personnes toxiques dans son enfance, si elle tombe sur une personne toxique, elle va, comme diraient les Jones, elle va la baser,
oui,
elle va la baser très vite,
mais oui.
Très très vite.
Parce que c'est vrai qu'on a une mémoire cellulaire et aussi on a un côté un peu karmique. Donc le fait d'avoir les deux personnes déjà dans son entourage, que ce soit le père ou la mère qui est toxique, il y a déjà une transgénération en fait. Et il faut couper aussi ce lien pour pas que ça se remette en place aussi pour les enfants. Les générations à venir, les générations futures.
Absolument.
Au cabinet, je fais beaucoup de travail comme ça, de couper les liens karmiques. Je travaille beaucoup en spirituel et je coupe aussi tout le côté transgénérationnel pour
moi,
libérer.
Vous savez, je vois tellement... Tristan Bernard avait dit dans le journal que dans la maison qu'habite un être humain dans une vie, c'est une métaphore, c'est une image. Hein. La pièce dans laquelle sont énormément de gens le plus longtemps dans leur vie, c'est la salle d'attente. Comprenez la métaphore. C'est-à-dire que cet amour dont ils ont manqué, on est tous du gruyère. Hein. On a tous, tout, peu ou prou, un enfant qui a manqué d'amour. D'accord ?
Oui,
après,
c'est vrai.
Tout le monde n'a pas le même lot. Hein. Il y en a qui ont vraiment manqué d'amour énormément, d'autres un tout petit peu. Bref, c'est comme je dis, dans les blessures d'enfance, il y en a, c'est une petite fente et d'autres, c'est une faille de San Andrea. Quoi. Et quand ils disent qu'ils sont dans la salle d'attente, c'est que cet amour-là, il faut en faire le deuil. C'est passé. On ne l'aura pas. Il ne faut surtout pas demander à l'amour présent d'adulte de nous le donner. Il ne peut pas nous le donner. C'est un peu ce que disait Lacan dans ses définitions très connues. L'amour, c'est donner quelque chose qu'on n'a pas à quelqu'un qui n'en veut pas. Elle est très connue, elle est abominable comme définition. Je préfère celle du docteur Leleux. Si on a un livre à conseiller qui serait le pendant des relations amoureuses toxiques, c'est le livre du docteur Leleux, Gérard Leleux, L'écologie de l'amour, où là, on apprend à de belles histoires d'amour. Bon, ou Le couple haute qualité relationnelle, qui est un de mes livres, où là, clé pour réussir notre couple, c'est un de mes best-sellers. Qu'est-ce que je veux vous dire par là? C'est que, c'est dur, je le vois, vous le voir dans votre cabinet et moi dans mes stages, qu'une personne conscientise qu'elle a eu un ou deux parents rivaux. Parce que papa, tu l'aimes toujours, maman, tu l'aimes toujours. Et la petite fille en toi, le petit garçon, même quand t'as 30, 40, 50, 60 ans, il a du mal à se dire, ouais, mon père m'aimait, ma mère m'aimait, mais son inconscient ne voulait pas que ça marche pour moi. Et il m'en a mis plein la tête et elle m'en a mis plein la tête.
Et oui, et au cabinet, en fait, on travaille beaucoup la petite fille intérieure ou le petit garçon intérieur, en fait, pour aussi dire qu'on n'a plus les mêmes capacités aussi du petit enfant qu'on a été. Maintenant, on a des capacités d'adulte et on peut aussi pardonner, accepter les relations qu'il y a eu du passé, parce que le passé est dépassé et il faut maintenant avancer et surtout rester bien ancré, en fait, dans l'instant présent. C'est vrai que c'est super important... en fait, de guérir le petit enfant qu'on a été. Hein.
Tout à fait.
Ça, c'est sûr. Alors, retrouver sa confiance quand on a été sous l'emprise de cette relation toxique. Comment on peut retrouver sa confiance? Comment on peut sortir, en fait, de cette emprise? parce que c'est assez compliqué. On croit aimer cette personne parce qu'on croit vraiment l'aimer, mais c'est pas de l'amour vraiment.
C'est une bonne question. C'est-à-dire que je pense que la bonne nouvelle, c'est qu'on peut toujours se sortir de quelque chose. Comme ça, ça donne de l'optimisme, on est d'accord ?
Oui.
Mais parfois, seul, c'est pas simple. D'où l'idée d'être accompagné, qui par une thérapeute comme vous, qui par un coach de vie ou un formateur comme moi. En tout cas, l'accompagnement fait du bien. Parce que tu as un tiers qui est un professionnel à qui tu demandes un service, au sens que ce service est payé. Et lui, ce professionnel, il est censé, je dis bien censé, avoir des outils qui vont t'aider. Hein, c'est ça que je dis à vous, auditeurs, n'est-ce pas ? Et là, vous voyez bien que comment en sortir ? C'est clair qu'une personne toxique vous délabre l'estime de vous et vous délabre votre confiance en vous, qui ne sont pas la même chose, ces deux choses-là.
C'est compliqué.
Il faut déjà aider la personne à rehausser son estime de soi, à rehausser sa confiance en soi en disant « n'écoute pas cet homme, n'écoute pas cette femme, tu n'es pas un vaurien, tu n'es pas sans valeur, tu n'es pas une merde, tu n'es pas un zéro, tu n'es pas un nul, ils ne passent que leur temps à ça, mais il faut savoir qu'en faisant ça, ils projettent. C'est eux qui sont mal. » Qu'est-ce que fait le pervers narcissique, par exemple ? On sait très bien que le pervers narcissique, c'était quelqu'un qui a un enfant intérieur complètement délabré, destroy. Mais il veut que l'autre se tue pour lui.
Exactement.
Il veut sa mort pour qu'il meure pour lui et que lui qui est suicidaire, au fond, il est suicidaire et il est dans un grand vide, il voudrait que tu te tues pour lui. C'est ça qu'ils veulent que les gens fassent.
Oui,
c'est l'horreur.
Parce qu'il est assoiffé, en fait, de cette existence, qu'on le sent aimer. En fait, c'est vraiment cette sensation qu'il veut ressentir, en fait.
On peut peut-être dire à vos éditeurs comment ils savent s'ils sont avec un pervers narcissique. Il y a 2-3 stigmates qui sont clairs. D'abord, le pervers narcissique n'a aucune empathie. Empathie réelle.
Oui.
Il peut la feindre. Les études américaines l'ont prouvé en neurosciences. C'est qu'il est tellement intelligent, parce qu'il ne faut pas dire le malade mental ou la malade mentale, la personne toxique, ce n'est pas un problème d'intelligence. Elle peut être très, très intelligente. Hein. Alors, en plus, s'il est pervers narcissique ou elle est pervers narcissique ou borderline, mais très intelligent, il est d'autant plus toxique. Eh bien, il regarde comment fonctionnent les êtres humains et il voit bien comment
il observe.
D'ailleurs,
oui, il a un côté
c'est bien
observateur.
Pour ça que dans la phase numéro 1, il joue à l'amoureux, bien, et elle joue à l'amoureuse. Moi, les gens me disent, mais pourquoi je ne l'ai pas vu avant ? Mais je lui dis, mais cher ami, vous connaissez la différence entre Dieu et le diable ? Laetitia, vous la connaissez ? C'est que Dieu ne se fait jamais passer pour le diable.
Oui, c'est vrai.
Le contraire n'est pas vrai. La beauté du diable. Je lui dis à la dame, mais s'il y avait marqué le diable là, tu serais allé ? Ben non, ben oui, donc il l'avait camouflé, il s'est fait passer. D'ailleurs, qu'est-ce qu'elles disent les femmes quand elles tombent sur un pervers lors de la phase numéro 1 ? J'ai enfin trouvé le bon !
Oui.
Il coche toutes les cases ! Il est comme si, il est comme ça, il est comme si c'était lui ! Un peu comme dans Mario au premier regard, l'émission la plus tarée du PAF en ce moment sur M6, quoi. Je veux dire, moi, c'est tellement taré que je la regarde. Tellement je me dis, mais comment ils ont pu avoir cette idée de concept abominable ? Mais je pense que les 3/4 c'est des comédiens et que les 3/4 viennent. Pour aller au voyage et tout. Mais c'est une horreur. En même temps, c'est terrible. C'était hier soir, d'ailleurs, Mario au premier regard. Mais le truc, il est que... Moi, j'ai bien connu. J'ai eu quelques histoires dans mes histoires d'amour avec des perverses narcissiques. Et il y a l'étape 2. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il n'y a pas de... C'est pas modéré. Il y a un moment donné, il y a une espèce... Un jour où c'est... Stac, comme une rupture. Et là, la personne est passée en phase 2. Généralement, c'est qu'elle vous a ferré et que vous êtes pris bien dans ses filets. Et là, cela, tu vois une toute autre personne. Le masque tombe. Et là, tu vois, tu dis, mais tu ne la reconnais plus. La personne devient désagréable.
Exactement.
Hautaine, méchante, te casse, te démonte.
En fait, aussi, les pervers narcissiques, en fait, utilisent aussi tout ce qu'on leur a dit pour vraiment encore
des dossiers.
Casser au plus profond de notre âme. Ouais.
Il a des dossiers.
C'est terrible, leur fonctionnement. Il y a vraiment un côté très égoïste. Hein. Ils n'ont aucune émotion, hein, ces pervers.
Aucune empathie.
Et
alors, autre petit point, peut-être, avant de passer à l'escale suivante. Le pervers narcissique et la perverse narcissique n'a pas d'humour. Ça, c'est une clé pour les reconnaître. Ils peuvent rire des vannes de l'autre ou faire semblant de rire, mais eux n'ont pas d'humour. Ils ne savent pas déconner, ils ne savent pas plaisanter.
C'est des êtres parfaits.
Ils n'ont pas d'humour. Et ça, ça a été décrit dans pas mal de livres, hein, notamment les livres les plus connus sur les pervers narcissiques. Mais moi qui l'ai vécu, et demandé à des femmes qui sont tombées sur des pervers narcissiques, il n'a pas d'humour, le pervers narcissique, il n'en a pas. Il rit peut-être de vous, il rit de certaines choses, mais ce n'est pas lui qui fait de l'humour. C'est pas lui.
Ils sont très comédiens. Si on peut regarder...
Ça, c'est le côté narcissique.
côté narcissique.
C'est le côté narcissique parce qu'il y a un côté narcissique. Je suis le phénix de ces bois. Je suis le plus beau, je suis la plus belle, je suis extraordinairement belle. Ça, c'est le côté narcissique. C'est-à-dire, vous avez vu, il n'y a pas plus belle que moi, il n'y a pas plus beau que moi. Ce côté narcissique-là prouve bien, dans ce complexe de supériorité-là, qu'en fait, la vérité, c'est qu'ils ne sont pas du tout sûrs de leur séduction. Pas du tout.
Ils ont un manque de confiance en eux aussi, ces pervers narcissiques.
Énorme, énorme, Laetitia. Mais encore une fois, si tu plonges dans une histoire d'amour avec un PN ou une PN, va voir du côté de ton enfance. Qui ton père, qui ta mère était forcément un pervers narcissique ou une perverse narcissique. En tout cas, avait des traits, quelques traits.
En principe, je revois bien au cabinet, en fait, les personnes où ils ont été sous l'emprise, en fait, de pervers narcissiques, c'est vraiment des personnes où ils ont déjà aussi la blessure d'abandon et de rejet. Ouais. Et en fait, le pervers narcissique a la blessure d'abandon et le rejet. Et aussi, la victime, elle a la blessure d'abandon et de rejet. Et donc, tous les deux, il y en a une qui cherche l'amour. L'autre, il se veut, en fait, exister, égoïste, sans émotion. Et là, ça fait une émulsion, en fait, de toxicité. C'est
terrible.
Et
là, vous touchez du doigt quelque chose de très juste, c'est que toutes les études ont prouvé en thérapie de couple qu'à 98%, 99% du temps, les deux personnes ont la même blessure d'enfance princeps.
Bien sûr.
Les abandonnés s'attirent, les rejetés s'attirent, les humiliés s'attirent,
les injustes s'attirent,
les trahisons s'attirent. Mais ils ont parfois un mode de défense inversé, ce qui veut dire qu'ils ne sont pas forcément les gens qui vont te rendre la plus heureuse et qui vont nous rendre les plus heureux. C'est ça qui est terrible. C'est que si tu as vécu une enfance avec le parent du sexe opposé, par exemple pour un petit garçon avec la mère, qui était, on ne dit pas très bien résolu, difficile, trop, avec une mère trop fusionnelle ou une mère trop absente, ou un père pour une fille qui est trop absent, eh bien souvent, tu vas être attiré par des hommes qui sont comme ça. Et alors, d'autant plus si tu as fait aucun travail sur toi, comme c'est le cas de 80% de l'humanité, si ce n'est 85%, d'accord ?
C'est vrai.
Ils sont combien les gens qui font un travail sur eux, les
Laetitia ? Il y en a peu,
ben, franchement,
il y en a peu.
Entre 15 et 20%.
Ouais, c'est vrai. Alors, moi, au cabinet, là, j'ai de plus en plus, c'est d'enfants, parce que, en fait, les enfants, maintenant, ils comprennent, eux. Ils ont l'ouverture de venir au cabinet. Principalement, les gens qui viennent, en fait, c'est soit qu'ils viennent parce qu'ils ont eu une maladie, qu'ils ont compris que c'était les émotions qui étaient bloquées du passé, soit les cancers, soit les grosses dépressions, le burn-out, soit la rupture sentimentale, le divorce, les deuils.
En fait, il faut attendre une grosse crise pour qu'ils viennent faire un travail sur eux.
Exactement.
Alors qu'ils auraient pu le faire en amont, parce que comme dit Jacques Salomé, moins tu fais de travail sur toi, plus ça va se manifester dans tes dires, tes comportements, tes actes et tes relations au quotidien. Et c'est ça le problème. Et moi, je le dis à vos auditeurs. Vous savez combien d'émissions, mon émission pour vivre heureux, ils vont coacher, je l'ai fait depuis 2015. Je reçois beaucoup d'auditeurs aussi au téléphone. Et en fait, ça, vous devez le savoir et vous êtes thérapeute. Quand tu es quelqu'un qui a fait ou qui fait un travail sur soi, tu ne peux vivre une histoire d'amour profonde et durable et jouable qu'avec quelqu'un qui fait aussi un travail sur soi. Sinon, on ne parle, au bout d'un moment, on ne parle pas
c'est
la même langue.
C'est au clash.
On ne parle pas la même langue.
Bah, il y aura toujours un décalage parce qu'on voit bien aussi dans les relations de couple, à un moment donné, il y a toujours des chemins qui se séparent parce que la personne, elle a évolué d'un côté, l'autre a stagné dans ses émotions du passé ou stagne. Et on voit bien que les personnes, s'il y a un couple qui a juste la femme qui commence, par exemple, un développement personnel, parce que les hommes sont plus réticents quand même. La femme qui...
C'est assez juste.
C'est juste.
Les hommes vont pas trop, ils ont peur des émotions.
C'est toujours la femme qui vient au cabinet et après qui amène le mari. Et après, on voit qu'il y a un décalage qui se fait dans le couple.
Bien sûr.
Ouais.
J'appelle ça dans mon livre une évolution discordante. On est tombé amoureux de quelqu'un à l'instant T,
exact.
Mais après il y a là l'instant X, l'instant Y, l'instant Z. Et qu'est-ce que devient l'autre ? Quel chemin il fait ? Si tous les gens qui vieillissaient grandissaient au sens psychologique du terme, ce serait beau. Si tous les gens qui vieillissaient se bonifiaient, ce serait beau. Mais c'est pas la réalité, Laetitia. T'as des gens qui empirent en prenant de l'âge. Grandir, c'est se libérer de ses névroses d'enfance et d'adolescence. Grandir, c'est faire un travail sur soi. Grandir, c'est pas vieillir, c'est pas prendre des années. Grandir, c'est dire. Moi, j'adore cette phrase de Bachelard. C'est mon côté Lucchini. Vous savez, j'en ai des millions de citations. Hein. Je vous en abreuve pas, mais j'ai un petit côté Fabrice Lucchini. Vous me connaissez. L'éducation de la vie déprave les êtres légers, mais perfectionne sur ceux qui réfléchissent. Je te le fais à la Lucchini. L'éducation de la vie. Mais c'est énorme, Laetitia. Déprave les êtres légers, mais perfectionne ceux qui réfléchissent. Et ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que n'y a pas uniquement le lire dans les livres, il y a aussi qu'est-ce que tu fais des expériences de vie que tu as vécues avant. L'enfance, l'adolescence, les premières histoires d'amour, pour justement, c'est ça l'éducation de la vie, pas reproduire et vivre autre chose.
Oui, tout à fait. Alors maintenant, on peut aussi voir comment retrouver sa confiance. Et aussi, j'ai vu dans votre magnifique ouvrage, vous faites la couverture, les arbres, les racines. Alors ça me parle beaucoup parce que je fais beaucoup de sylvothérapie et en même temps des ateliers dans la forêt où je me connecte avec les personnes aux arbres. Où on marche pieds nus dans la forêt et j'ai trouvé en fait vraiment cette couverture très parlante.
Alors je vais vous dire, je l'ai adoré cette couverture. C'est moi qui l'ai imposée à mon éditeur. Vous parlez de la couverture où deux arbres sont en forme
exactement.
De tête d'homme et les mains sont les racines et tout. Je suis passionné comme vous par la sylvothérapie. Je pense qu'aller prendre un bain
de forêt
est extraordinaire. Je pense aussi, comme je suis moitié italien et moitié breton, que je m'appelle Medici mais je m'appelle Le Pen rue de l'autre côté. C'est comme Le Pen mais avec rue en plus. Hein. J'ai eu de la chance, il y a un rue en plus, ce qui veut dire la tête rouge. Le chevreau, donc j'ai du sang celte. J'aime beaucoup la civilisation celte. J'ai quelque chose de celtique. Je suis moitié florentin, Medici, mais moitié ce qui fait un beau mélange, n'est-ce pas ? Non,
c'est pas mal comme mélange.
Non, bon, ça vous plaît ? Voilà, je plaisante. Eh bien, les druides disaient des arbres, regardez comme cette définition est belle, ce sont les grands frères de lumière.
Oui.
Les arbres, maintenant, on le sait, tous ces livres qui sont sortis ces derniers mois, ces dernières années, sur, n'est-ce pas, Laetitia, sur les arbres, communiquent entre eux. D'où mon image des deux racines qui se, dans Retrouver confiance, qui se serrent la main. Il se passe des messages. Quand on demande la permission à un arbre d'aller le toucher, on sait comment le chakra rouge, le premier chakra, la racine, on se ressent très fort. Et puis, il y a aller trouver son arbre. Il y a tellement de choses. Moi, je serais passionné par venir voir ce que vous faites en séance de sylvothérapie. Je viendrai bien un jour parce que ça me passionne.
Et quand je me promène aussi dans la forêt, parce qu'on dit qu'il y a des esprits de la nature. Et c'est vrai que même les arbres, en fait, on voit, ils ont des visages. Il faut vraiment être concentré. Vraiment prendre le temps d'observer quand même la forêt et on peut trouver vraiment des petits esprits de la nature où il y a des formes en fait de visage, des choses qui se mettent en place et c'est assez parlant.
C'est beau.
C'est très très beau. C'est pour ça que ça m'a plu cette couverture, vraiment cet ancrage aussi comme on dit du chakra racine
oui.
Où on sent que vraiment l'énergie elle vient vraiment
et surtout,
de la racine.
On est tellement stressé Laetitia, surtout dans cette période depuis un an, mais on est stressé par l'époque qu'on vit, par cette vie que dans la forêt, si on inspire et on expire et si on est en phase avec les éléments, c'est le meilleur des déstresseurs, quoi.
Exactement.
Ouais. Ça fait un bien fou. Moi, j'habite pas loin de forêt, vous le savez, la forêt de Montmorency, je suis de ce côté là-bas, moi, forêt de Saint-Leu, toutes ces forêts-là, et j'adore ces endroits-là. Et puis c'est beau, on peut y faire l'amour aussi.
Aussi, oui.
Il y avait une chanson, j'ai fait l'amour avec la mer, j'ai fait l'amour
avec la forêt.
Vous connaissez ces gens qui ont décidé d'aller vivre dans des forêts,
oui,
qui créent des cabanes et qui vivent leur vie dans
des
les forêts.
Des yourtes dans la forêt.
Ouais. Et... il y a un homme, je crois, qui vient de sortir un livre, là, il y a 2-3 mois, une sorte de roman où il raconte qu'il a passé 10 ans tout seul en forêt. Et ça, il a été invité sur les plateaux de télé et de radio. Je crois qu'il est même passé chez Yann Barthès, mon émission PAF préférée, quotidien, de loin la meilleure émission de tout le PAF. Hein. Ils sont juste au-dessus de nous à Sud Radio, quotidien. C'est-à-dire, il y a Sud Radio, on est au rez-de-chaussée, et quotidien, ils sont au 5e étage. J'aime beaucoup Yann Barthès et j'aime beaucoup l'angle qu'il prend dans son émission quotidien. Ce sont des génies. Et d'ailleurs, vous remarquerez que maintenant, énormément d'émissions d'autres chaînes, là je parle de la télé évidemment, emprunte le langage barthésien. Je regarde les enfants de la télé.
Oui.
Énormément maintenant des petites chroniques que font les chroniqueurs de Laurent Ruquier. Ils reprennent l'esprit de quotidien. Sur Canal+, pareil. Mais oui, quand t'es génial, t'es copié.
Exact. Vraiment.
Quand t'es génial, t'es copié. Barthez et son équipe est géniale, ils sont copiés.
En fait, je trouve ça dommage parce qu'il ne faut pas être aussi dans la comparaison et copier, il faut être unique.
Oui, mais il voit que c'est super et que ça plaît. Parce que, bon, Yann Barthès, il a mis une claque à tous les premiers prime time de l'époque. Alors, ils sont tirés la bourre avec Cyril pendant pas mal de temps. Alors, n'en déplaise aux intellectuels, on peut à la fois avoir plus de 250 comme vous et moi, n'est-ce pas ? Et aimer aussi Cyril Hanouna. Voilà, je suis désolé. Je n'aime pas cette espèce de culture haute bashing en France que Sorbonnarde, Normal Sup, ENA, Sciences Po, dire « Oh, Cyril Hanouna, allez animer une émission comme Cyril Hanouna, vous. Allez animer sans prompteur comme Cyril. » Moi, je suis capable de le faire, par exemple, parce que moi, je suis capable de toutes les énergies possibles, de Jacques Martin en passant par Michel Field, donc je peux faire du Cyril Hanouna, il n'y a aucun problème. Moi, je suis une sorte de Zidane qui va bientôt trouver toute sa place. Ça fait 11 ans que je suis dans les médias, mais je n'ai pas encore réellement toute ma place que je mérite dans les médias. Parce que je suis un mec de Ligue 1 qui jouerait dans des clubs. Bon, je suis chroniqueur, exactement, mais Sud Radio, c'est pas. Bon, le moment où c'était le mieux, c'est grâce à Brigitte, c'était à RMC. À RMC, on avait 1 200 000 auditeurs tous les après-midi, Laetitia. Je vous le souhaite.
Bah, merci.
Je vous le souhaite.
Merci, Christophe.
Voilà. Donc, moi, j'en ai un peu marre de cette culture haute parce que Cyril Hanouna, il apporte quelque chose. D'accord, ça fait un peu centre de loisirs. D'accord, c'est le chocolat sur la tête. Mais d'autres moments, il a un humour juif, moi, qui me fait pisser de rire. Et il est extraordinaire de spontanéité, de capacité d'improvisation, de capacité d'à-propos sur les gens. Maintenant, il faut être à haut potentiel pour faire ça. Après, je suis pas sûr que t'en être chroniqueur chez Cyril et se prendre du chocolat toute la journée.
Ça doit être
surtout avec
pas
Gilles Verdez à côté,
plus.
Qui est un mec à qui t'as juste envie de mettre des baffes, ça te plairait tout le temps. Mais mon pote Eric Nolot, par exemple, bah il l'est. Et je connais Eric depuis 2007. Et,
il a dû faire un travail sur lui-même avant.
Ouais, Eric. Ouais. Bon, enfin, dans les couples, c'est ce qu'on vient de dire, c'est intéressant parce que dans les couples aussi, il y a à savoir ce qu'aime l'autre. Si t'aimes la télé et la radio et que ta conjointe ou ton conjoint n'aime pas la télé et la radio, ça peut être un problème. Ça peut
oui,
être un problème.
Vrai.
Toi, moi, je sais que je peux pas être avec une conjointe qui a pas envie de savoir. Moi, j'ai besoin de tout savoir ce qui se passe dans le PAF. Parce que c'est un de mes 5 métiers, vous l'avez dit en début d'émission. Donc, je suis obligé de tout savoir parce que d'abord, ça me plaît. Parce que j'aime être sur les plateaux de télé. J'adore ça. Je suis dans mon jardin. Je suis dans mon salon à France 3. Je suis dans mon salon à C8. Je suis dans mon salon à BRTV. Dans mon salon. J'adore ça. J'ai un pouvoir invasif d'un plateau qui est monumental. Je peux avoir Zemmour devant moi, il ne me fait pas peur. J'ai la même énergie dans l'amour,
c'est
moi,
ça.
Que Zemmour. Donc moi, j'ai eu Zemmour puissance 100 000 de gauche avec mon père et mon grand-père. Donc ce n'est pas Zemmour qui va me faire peur, même Mélenchon, il ne me fait pas peur, je rigole exprès. Hein. Donc même Mélenchon, moi je les ai toutes et tous su, je le disais en off au directeur de la radio, de Dynamique Radio tout à l'heure, en 2012, en 2017, pour les présidentielles, je les ai toutes et toutes interviewées en tant que chroniqueur. Donc je les connais par cœur. Ce n'est pas le politicien, la politicienne qui a sa violence, parce que ce sont des gens violents. Hein. Très violent, hein. Et ce sont des mâles et des femelles alpha, donc avec un degré de testostérone monumental, et on peut tout leur enlever, sauf que ce sont de grands orateurs et des gens qui savent parler.
Oui, exactement.
Mais moi, j'aurais pu être un homme politique. Mon meilleur ami était le meilleur ami d'Edouard Philippe à l'ENA. Un autre de mes meilleurs amis était avec Macron à Sciences Po. Mais pourquoi on n'a pas choisi la politique? Parce qu'on est des émancipationnistes. Une émission comme la vôtre, elle est faite pour aider les gens à s'émanciper. Moi, je suis de la formation continue et du coaching parce que je veux aider les gens à se libérer, moi. À devenir une meilleure version d'eux-mêmes. Pas à les manipuler. Les politiques, eux, ils les manipulent.
Ils les manipulent.
Mais moi,
nous,
j'ai
on essaye de ressortir leur être en entier.
On est leurs grands adversaires.
Oui. Exactement.
On est à l'inverse d'eux pour les humains et tous les deux, et c'est ça qu'il faut dire aux gens, parce que les gens, mes collègues, moi, Mathieu Ricard, Christophe André, tout ça, j'ai beaucoup d'estime pour eux,
oui.
Mais ils ont un petit côté leurrant pour les gens, c'est-à-dire cuicui les petits oiseaux, moi j'appelle ça la névrose bonbon. Comme vous, je suis
j'ai
dans les salons.
J'ai vu aussi
salons.
Ce matin encore Christophe André, c'est un peu cuicui les petits oiseaux.
C'est cuicui les petits oiseaux. Moi, ma méthode, elle montre bien aux gens, il y a la basse qualité rationnelle, il y a les gens qui gouvernent le monde, c'est pas des gentils. Eux, c'est pas des gentils. Et tout ce qu'on fait, nous, ils prennent ça pour des bullshit. Alors que nous, on parle de l'essentiel. Eux, pour eux, c'est... Mais c'est quoi ces conneries?
Nous, on travaille vraiment...
Oui, mais pour eux, c'est des conneries. Et ça fait partie de l'humanité. Eux, ils sont dans les hard skills. Nous, on est dans les soft skills. C'est dans les compétences dures. Hein. Eux, ils te disent, la HQR, d'accord, dis-moi, combien de bataillons?
Ouais.
Combien de dollars?
Oui,
tu
c'est ça.
Tu pèses combien?
Exact.
Parce qu'ils ne sont que dans le rapport de force, mais il ne faut pas leurrer les gens qui viennent dans les salons zen et les salons du bien-être. Si tu leur dis seulement qu'il faut faire de la méditation, faire de la thérapie, moi dans la HQR, il y a 7 clés noires. La fermeture, l'irrespect, le rejet, la rigidité, la méchanceté, l'irritabilité, la surdité. Il faut expliquer que les gens de la politique et les gens en haut des organigrammes des grosses entreprises, c'est des killers et des killeuses. À 90% du temps, il y a toujours 10% qui sont des exceptions qui confirment la règle. Mais sinon, eux, ils en ont rien à foutre de tout ce qu'on fait, nous. En ce moment-là, ils nous disent « Vous avez du temps à perdre, là. Ça te rapporte ta merde, là. Tu fais du fric, là, aujourd'hui, là. »
Parce qu'eux, ils sont en fait dans l'énergie
de rapport de force. Il n'y a que le pouvoir qui compte pour eux. Il n'y a que le pouvoir. Nous, on est dans le pouvoir pour aller mieux, pour le bien-être, pour émanciper les gens. Eux, ils sont dans le pouvoir sûr. Ils veulent être au-dessus du cocotier, au-dessus du ranking et t'éclater la tête. Et avoir plus d'argent que toi, avoir un meilleur ranking dans la société que toi, voilà ce qui compte pour eux. Et je peux vous dire que moi, je n'ai pas connu, pourtant j'ai écrit sur mes 20 livres, 5 livres sur la politique. Donc j'ai eu des velléités à la vingtaine quand j'étais encore dans le romantisme.
voyez mon clin d'œil, de la politique. Quand j'étais dans le romantisme, que je pensais que c'était défendre des valeurs, que je pensais que c'était défendre des idées, en pire, que je pensais que c'était défendre des idéaux, et puis après, bon, moi, j'ai compris. Un peu plus tard, j'ai compris.
Eh oui.
C'est pas ça. Ça, c'est le romantisme de la politique, ça. La politique, c'est la guerre continuée par d'autres moyens. C'est la guerre.
C'est de la manipulation.
Donc, si t'es pas une guerrière et un guerrier, si t'as pas envie d'avoir le goût du sang dans la bouche et comme Trump, sortir ton gun et killer une personne en une seconde, parce que c'est ça qu'il faut faire, fais autre chose que de la politique. Parce que tu seras forcément malheureuse. Il faut, et là encore, on revient aux blessures d'enfance.
Mais c'est que... des personnes, en fait, qui ont la blessure d'abandon, les blessures de trahison et d'humiliation, mais il y a des blessures et en fait, elles remontent. Et c'est en fait cette rage, en fait, de l'enfance qui, en fait, les propulse pour aller dans
Tout le temps politique, il y a eu un problème avec son père. Donc j'aurais pu être un homme politique, parce que je veux dire que j'ai eu un père d'une violence incroyable. Qui m'a mis la tête sous l'eau comme moi, mes frères, et donc évidemment que j'avais le profil pour faire de la politique. Tout homme politique, réfléchissez à la relation personnelle qu'avait Chirac avec son père, réfléchissez à la relation qu'avait François Mitterrand avec son père, réfléchissez à la relation qu'avait Giscard d'Estaing avec son père, paix à leur âme. Parce que Volins Nolins, d'un autre côté aussi, moi l'ennemi, je connais sa valeur. Faut pas enlever le fait que ces gens-là sont des hauts potentiels. Et les abrutis des salons zen et bien-être, ils jettent le bébé avec l'eau du bain. Quand tu leur dis que c'est des grands orateurs et qu'ils ont de l'éloquence, mais tu plaisantes ou quoi? Même Trump, c'est un taré, c'est un pervers narcissique, c'est tout ce que tu veux. Mais tous les tarés et pervers narcissiques ne deviennent pas président de la République des États-Unis. Enfin, voyons, c'est un mec monstrueux, à tous les sens du terme, mais avec une intelligence magistrale. Parce que pour faire croire au Pékin moyen du Texas, qui est au burger et qui va faire des rodéos, que Trump méprise, mais royalement, parce que Trump, pour lui, il y a les winners et le reste, c'est les losers, d'accord? Que ce mec-là puisse admirer ce mec et voter pour lui. Mais vous imaginez le chemin qu'il a parcouru en paraître?
Ouais.
Alors, arrêtons, Trump est un génie. J'ai un mépris total pour Trump, on est bien d'accord, on se comprend tous les deux, hein. Et vous avez compris mon amour immodéré pour les hommes et la classe politique. Je pense que la politique, c'est pas le remède, c'est le mal. Et moi, qui ai une âme de révolutionnaire, vous devez le sentir en moi, je suis certainement des coachs et des hommes du développement personnel et du bien-être le plus politique de tous.
Je vois ça.
Pourquoi? Parce que j'ai fait des études d'histoire, que j'ai eu un atavisme familial, que je les ai interviewés dans les médias, que j'ai écrit 5 livres dessus, j'en écrirai pas d'autres parce que j'ai tout dit ce que j'avais à dire sur la communication politique. En politique, paraître, c'est être. Tu parais gentil, donc tu l'es. Tu parais, c'est ce qu'avait dit Sarkozy de Chirac, ça. Jacques Chirac paraît gentil, donc il est gentil. Nous, on aime l'authentique.
Nous, on aime la communication authentique, donc on aime l'être.
On aime l'être. Eux, c'est paraître.
Et c'est paraître.
Et j'ai créé un néologisme dans mon livre « Savoir gérer les personnes toxiques » dans le premier schéma d'un autre livre qui s'appelle « Savoir gérer les personnes toxiques ». Communiquer, c'est par, de paraître, et être. Communiquer, c'est paraître.
Mais à un moment donné, ça ne marchera plus. Parce que les enfants, maintenant, ils sont dans l'être, je pense, nos enfants. Et ils ne seront plus dans le paraître parce que déjà, ils sont en train de voir avec leurs yeux. Moi, je dis bien voir avec les yeux déjà ce qui se passe là, autour. Donc, je pense qu'on va... Ça va évoluer.
Inch'Allah.
Je l'espère.
Inch'Allah.
On va faire une petite pause musicale.
Tu es. Dis-moi de moi. C'est peut-être moi que je suis des fois. Je veux revoir le monde de l'autre fois, celui que le monde ne connaît pas. Je veux revoir l'ombre de l'autre toi, celui que le monde ne connaît pas. Je veux revoir le monde de l'autre fois, celui que le monde ne connaît pas. Je veux revoir en toi tout ce que je suis pas. Dis-moi qui tu es, mais surtout s'il te plaît, donne-moi ton cœur. Ce que tu es, ce que tu es. Dis-moi tes peurs.
Troisième escale, la valise astuce bien-être pour votre quotidien.
Alors pour la valise astuce bien-être du quotidien, pour retrouver sa confiance, donc nous allons vous donner quelques astuces à mettre en place pour déjà retrouver sa confiance. Donc vous pouvez lister vos réussites, vos victoires, parce que listez au maximum depuis votre enfance jusqu'à aujourd'hui. Et dites-vous que si vous avez fait tout cela par le passé, c'est que vous êtes capable de le faire. Comme on disait depuis le début, tout vient en fait de l'enfance. Donc reprenez bien en fait des petites, tout ce que vous avez mis en place, tout ce que vous avez réussi, les diplômes, si vous avez réussi même à soigner un animal, quelque chose que vous avez fait petit ou que c'était extraordinaire, plus il y a de la magie et plus en fait vous allez voir que vous allez augmenter votre confiance en vous en listant vos victoires. Christophe, vous avez aussi quelque chose à rajouter pour l'astuce, la valise?
Dans la valise que je mettrai, c'est pas la valise RTL, hein. C'est la valise dynamique. Elle est beaucoup plus profonde et intéressante. Ce que je mettrai dans la valise, c'est que les gens s'achètent un petit miroir. C'est la thérapie du miroir de Louise Hay. Hein. Et simplement, 10 fois par jour, pendant 30 jours minimum, ils se disent « je m'aime et je m'accepte ».
Je m'aime et je m'accepte.
En fait, je me rends compte avec mes stagiaires qu'ils ne savent pas à quel point, les gens ne savent pas à quel point ils s'aiment.
Eux-mêmes. Je le fais aussi au cabinet qui se font un petit mantra s'auto-s'aimer. En fait, je m'aime, j'aime mon corps aussi parce qu'il y a toujours ce problème aussi corporel.
Bien sûr.
J'aime mon corps, je m'aime, je suis unique, je suis belle.
C'est bon le faire devant un miroir, c'est important parce que c'est bon le champ électromagnétique des paroles qu'on dit et ça fait du bien et ça joue sur le cerveau. Vous connaissez l'expérience de Emoto avec le riz, hein, quand on voit des messages.
Alors je vais dire l'expérience.
Allez-y.
Alors on fait 2 bols de riz, on les met dans des récipients et on met un bol de riz où en fait on va dire que des pensées négatives, la colère, la haine, et un autre où on va lui donner beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance. Et alors incroyable qu'il est, le pot de riz en fait où on a mis toute la haine, toutes ces pensées énergétiques parce qu'on est énergie, en fait pourri.
Bien tout noir, dégueulasse, et l'autre
il reste blanc.
Ouais.
C'est fou, hein.
Ouais.
C'est incroyable.
Et ça a été étudié, il y a le livre de Masaru Emoto là-dessus, c'est vrai, ça marche. Alors imaginez si ça marche pour le riz, ce que ça fait sur un humain quand dans les premiers mois ou les premières années de sa vie, il a entendu des messages toxiques, ou alors une chose est de dire à quelqu'un oh, « qu'est-ce que t'es beau, qu'est-ce que t'es très intelligent », et une autre « mais quel petit crapaud, mais qu'est-ce qu'on va faire de toi, t'es nul, tu vaux rien ». Et tout ce bain langagier dans lequel t'as été petite, eh ben, c'est exact. Si ça fait ça pour le riz, vous imaginez ce que ça fait sur le cerveau d'un humain.
Exactement.
Et donc le problème d'estime de soi et de confiance en soi, il vient pas de notre dernière rupture amoureuse, il vient pas de notre dernier problème au travail,
il vient des premières années,
programmations des parents.
Et donc bien en fait on revient sur la mémoire cellulaire et si on regarde bien aussi, j'avais fait un atelier pareil avec Masaru Emoto en fait sur l'eau, parce que en fait l'eau aussi a une mémoire en fait, et pareil déjà, il faut vivifier en fait l'eau parce qu'on boit beaucoup de l'eau morte. dans les bouteilles en fait d'eau minérale, c'est de l'eau morte, et il est préférable en fait de vivifier en fait l'eau. En fait, il faut la faire tourner, et là, elle va redonner en fait de la vie, va avoir de l'oxygène à l'intérieur. Et il y a un côté en fait cellulaire qui se met en place, et il faut parler à l'eau aussi parce qu'elle a une mémoire. Donc il faut dire je bois cette eau pour me guérir, ou je bois cette eau par amour. C'est vrai que c'est très intéressant, parce que quand on boit le verre d'eau, en fait, on l'imprègne à l'intérieur de son corps, on se le diffuse aussi.
Exactement.
Et c'est important, en fait, aussi, comme je disais, faire des respirations et diffuser des mots positifs. Parce que pour avoir une belle énergie positive, le positif attire le positif.
Tout à fait. Tout à fait.
Donc, eh ben, on va terminer ces belles paroles pour cette émission, ce premier vol.
C'était un baptême. Quel beau vol avec vous, Laetitia. J'ai pas vu le temps passer.
On a fait
vraiment, l'avion est merveilleux, la pilote extraordinaire.
Parfait, tout s'est bien passé.
Et je souhaite des centaines et des milliers
de vols,
d'escales et de vols.
Exactement.
Moi, je suis heureux d'avoir été votre baptême.
Ben, merci surtout à vous, Christophe, d'avoir
merci
fait ce baptême.
Merci de votre invitation. Merci beaucoup.
Donc, merci à vous aussi de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour un autre vol dans Air Zénitude. Vous pouvez retrouver le podcast de l'émission sur Dynamique Radio, sur Deezer et la chaîne YouTube de Air Zénitude. Merci, au revoir.
Chers passagers, nous sommes arrivés à destination. Nous espérons que votre voyage a été agréable. Nous vous remercions d'avoir choisi la compagnie Air Zénitude et souhaitons vous revoir le mois prochain pour un autre vol sur Dynamique Radio.